VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 30 août 2018, au micro Anne Albertson, bonjour. Pour commencer les titres, signature cette semaine à Khartoum d'une déclaration d'entente par des groupes armés centrafricains. La CPI rendra en septembre sa décision en appel sur l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba dans une affaire de subornation de témoins. La première ministre britannique, Theresa May, signe des accords au Nigeria dans le cadre de sa tournée africaine. Tournée africaine également pour la chancelière allemande Angela Merkel, arrivée hier au Sénégal. Le président américain, Donald Trump, accuse la Chine de compliquer les négociations avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Des groupes armés centrafricains ont signé une déclaration d'entente cette semaine à Khartoum. Ces discussions se sont tenues sous l'égide de la Russie et du Soudan, selon les autorités centrafricaines. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué lu hier à la radio d'État à Bangui, Ange-Maxime Kazaghi, ministre de la Communication, a déclaré que la Russie et le Soudan ont pris l'initiative de cette rencontre à Khartoum dans un processus qui se tient en parallèle à la médiation de l'Union africaine. Trois groupes armés de l'ex-coalition Seleka ainsi qu'un groupe anti-Balaka ont signé une déclaration d'entente. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique de Noureddine Adam, l'Union pour la paix en Centrafrique dirigée par Ali Nadras, le mouvement patriotique pour la Centrafrique de Mahamat Al-Khatim et Maxime Mokom, l'un des principaux leaders anti-Balaka, sont signataires de cette déclaration. Moscou a tenté plusieurs fois d'organiser une réunion de médiation. Les autorités centrafricaines disent avoir pris acte de cette déclaration, mais soutiennent la démarche de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation. Une réunion entre les groupes armés et le panel de l'UA est prévue fin août à Bouar, dans l'ouest de la Centrafrique, pour harmoniser les 97 revendications qu'ils ont présentées en vue d'un accord officiel.
La Cour pénale internationale rendra en septembre sa décision en appel sur une peine à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, ex-chef de guerre et aspirant à la présidence de la RDC, dans une affaire de subornation de témoins. La décision sera rendue le 17 septembre, soit deux jours avant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en RDC, prévue le 23 décembre. Monsieur Bemba, l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila, a été écarté vendredi par la commission électorale en raison de sa condamnation par la CPI pour subornation de témoins. Il a saisi lundi la Cour constitutionnelle après l'invalidation de son dossier. La chancelière allemande Angela Merkel a entamé hier au Sénégal une tournée africaine qui l'amènera également au Ghana et au Nigeria, au moment où Berlin mise sur le développement du continent pour endiguer les flux migratoires et renforcer la lutte contre la menace djihadiste. Madame Merkel, accompagnée d'une dizaine de capitaines d'industrie allemands, a été accueillie mercredi en fin d'après-midi sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, par le président Macky Sall. Pour sa part, la première ministre britannique, Theresa May, en visite au Nigeria, a signé plusieurs accords bilatéraux concernant la lutte contre l'immigration illégale, la sécurité et le commerce. Le point avec Raissa Girondin.
La première ministre britannique a rencontré à Abuja le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui lui a assuré que les prochaines élections en février 2019 seraient libres, transparentes et crédibles. Pour aider à lutter contre Boko Haram et le groupe État islamique au Sahel, Theresa May et Muhammadu Buhari ont signé un accord pour formation militaire de l'armée nigériane avec un soutien pour le respect des droits de l'homme, a expliqué le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyema. La question de l'immigration clandestine vers l'Europe a aussi été abordée. Londres promet d'aider à rapatrier 1700 sur les quelques 36 000 Nigérians bloqués en Libye. Theresa May prépare le Brexit, la sortie de son pays de l'Union européenne. Accompagnée de 27 hommes d'affaires, elle doit trouver de nouveaux alliés économiques. Après l'Afrique du Sud et le Nigeria, Theresa May se rend au Kenya, dernière étape de sa tournée africaine.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé hier que l'ex-chef de l'État sud-africain, Nalema Motlanthe, présidera la commission chargée d'enquêter sur les violences meurtrières qui ont suivi les récentes élections générales au Zimbabwe. Le 1er août dernier, à Harare, l'armée avait ouvert le feu sur une manifestation de partisans de l'opposition qui réclamait la publication immédiate du résultat du scrutin présidentiel et législatif disputé deux jours plus tôt. Cette intervention avait fait six morts et plusieurs blessés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé hier sur Twitter le départ prochain de Don McGahn, l'avocat de la Maison-Blanche, probablement à l'automne après la confirmation par le Sénat du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Monsieur Trump a qualifié Monsieur McGahn de gars excellent, exprimant sa grande affection pour lui. À noter que Don McGahn a été critiqué par les alliés du président américain pour avoir largement coopéré avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, une chasse aux sorcières, selon M. Trump. Toujours à Washington, le président Trump a averti que les États-Unis pourraient reprendre à tout moment les manœuvres militaires avec la Corée du Sud et le Japon en l'absence de progrès sur le dossier de la dénucléarisation en Corée du Nord. M. Trump a ajouté que ces manœuvres pourraient même être plus importantes que jamais. Dans une série de tweets reprenant un communiqué de la Maison-Blanche, M. Trump a blâmé la Chine pour les difficultés actuelles dans les relations entre Washington et Pyongyang, disant qu'il estime que la Corée du Nord subit une pression énorme de la part de Pékin à cause des grands différends commerciaux sino-américains. Selon lui, la Chine n'aide pas non plus en fournissant une assistance considérable à la Corée du Nord, notamment de l'argent, du carburant, des engrais et des matières premières. Relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, maintenant, les négociateurs des deux voisins mènent des discussions très précises sur une version modernisée de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, et il y a une possibilité d'avoir un bon accord pour le Canada d'ici vendredi, a déclaré mercredi le premier ministre canadien Justin Trudeau. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Les Canadiens, dirigés par la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, ont pris les débats en cours mercredi et mènent des discussions très pointues actuellement, selon le premier ministre canadien en conférence de presse. Les États-Unis se sont déjà entendus lundi avec le Mexique, l'autre partenaire sur les termes d'un ALENA revu et amélioré, et le couple aimerait bien la conclusion d'un accord tripartite d'ici vendredi, a noté Justin Trudeau, soulignant qu'il existe une possibilité d'y arriver. Ottawa avait choisi de laisser Mexico et Washington d'abord leurs différends au cours de négociations bilatérales avant de retourner à la table des négociations sur ce dossier ultra stratégique. Parmi les contentieux qui restent à régler figure la question de la gestion de l'offre, un système de quotas protégeant l'industrie laitière canadienne dont Washington réclame le démantèlement.
Les États-Unis ont assuré mercredi prendre au sérieux un rapport d'enquête de l'ONU qui fait état de possibles crimes de guerre commis par toutes les parties au conflit au Yémen, y compris l'Arabie Saoudite, une partenaire stratégique de Washington. Riyad combat à la tête d'une coalition, les rebelles chiites houthis appuyés par l'Iran au Yémen. Pour la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, rien ne peut justifier de tels crimes s'ils ont effectivement eu lieu, a-t-elle ajouté. Elle a appelé les parties au conflit à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles violations. Des élus américains ont exhorté hier l'administration Trump à adopter des sanctions contre des responsables chinois impliqués dans l'internement de membres de la minorité musulmane ouïghour dans la région de Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. C'est ce qu'a annoncé le sénateur Marco Rubio. Dans une lettre adressée au secrétaire d'État Mike Pompeo et à celui au Trésor Steve Mnuchin, les membres du Congrès, républicains et démocrates, ont appelé à sanctionner 7 responsables chinois et 2 sociétés productrices d'équipements de surveillance, a rapporté le Wall Street Journal. La Chine rejette les allégations selon lesquelles 1 million de membres de la communauté ouïghour, majoritairement musulmane, sont détenus dans des camps d'internement. Au Nicaragua, le président Daniel Ortega a violemment attaqué mercredi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme après la publication par cet organisme d'un rapport sur la situation dans son pays. Le Haut Commissariat n'est qu'un instrument de politique de terreur, de mensonges et d'infamie, a déclaré M. Ortega lors d'un rassemblement de membres de son parti à Managua. Le président nicaragouien est confronté depuis 4 mois à des manifestations de l'opposition réclamant sa démission. Plus de 300 personnes ont été tuées dans la répression de ces manifestations, selon des associations de défense des droits de l'homme. Cette violence a suscité de nombreuses critiques internationales. L'Arizona a fait ses adieux hier à son sénateur John McCain, grande personnalité de la politique américaine, décédé samedi à l'âge de 81 ans d'un cancer du cerveau. C'était au Capitole de cet État du sud-ouest des États-Unis. Les précisions d'Irénée Herman-Humbo.
Il a consacré sa vie au service de son pays, a déclaré John Keel, ancien sénateur de l'Arizona, lors de la cérémonie dans la rotonde du Parlement local devant son épouse Cindy et ses enfants. Le cercueil de l'ancien pilote de chasse recouvert d'un drapeau américain a été accueilli par une aide d'honneur composée de soldats, de pompiers et de membres des forces de l'ordre. Cindy McCain a délicatement placé sa joue sur le cercueil au centre de la rotonde. John McCain, candidat malheureux à la présidentielle de 2008, aurait eu 82 ans hier mercredi. Des funérailles nationales sont prévues samedi à Washington, où sont attendus les anciens présidents Barack Obama et George Bush. L'inhumation de ce héros aura lieu dimanche au cimetière de l'Académie navale d'Annapolis, près de Washington, dans l'intimité familiale.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Nous retrouvons maintenant Idrissa Seydoudia pour les sports et l'économie.
La Minute Eco, Eric Manirakiza.
L'Ouganda a attribué à la China Railway Group un marché de 110 millions de dollars. C'est pour construire une tour de bureau de 32 étages à Kampala. Le fonds de pension ougandais, maître d'ouvrage, veut aussi relancer son programme d'investissement qui consiste à mobiliser jusqu'à 600 millions de dollars pour la construction d'immeubles, de bureaux et la mise en place de lotissements. D'ici à 2025, l'institution espère porter ses actifs à plus de 5 milliards de dollars. La Chine a accordé plus de 1450 bourses d'études aux Éthiopiens au cours des 8 premiers mois de 2018. Ils ont été admis dans divers domaines académiques de formation. Parmi eux, 220 suivent l'enseignement supérieur chinois pour des programmes de maîtrise et de doctorat. Ces dernières années, plus de 5650 Éthiopiens ont reçu une formation en Chine. En 2012, Pékin a promis de former 30 000 Africains en 3 ans et d'offrir 18 000 bourses gouvernementales pour son programme de talents africains. Le sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération Chine-Afrique en 2015 a annoncé des programmes majeurs. Pékin s'est engagé à former 200 000 spécialistes africains, comprenant un quota de 40 000 stagiaires en Chine au cours des 3 années suivantes.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme, Talou et Yego sont les capitaines de Team Africa à l'IAAF Continental Cup.
À 10 jours de l'IAAF Continental Cup, une compétition qui oppose des équipes issues de différents continents, on connaît la composition des équipes. La Confédération africaine d'athlétisme a choisi l'Ivoirienne Marie-Josée Talou et le Kenya Julius Yego, respectivement comme capitaines des équipes féminines et masculines. Star du sprint et en finale de la Diamond League, Talou conduira une effectif parmi lequel la Sud-Africaine Caster Seminia, la Kenyane Hélène Obiri au 3000 mètres ou encore la Burkinabé Marthe Kwala au saut en longueur. Elle-même sera alignée sur le 100, 200 et 4 x 100 mètres. Chez les hommes, le porte-drapeau est le lanceur de javelot Julius Yego. La compétition aura lieu du 8 au 9 septembre à Ostrava, en République tchèque.
En football, les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe CAF sont connus.
Grosse sensation, Rayon Sports s'invite en quart de finale. Troisième du groupe D au coup d'envoi, les Rwandais se sont imposé 1-0 à domicile contre Young African déjà éliminé lors de la 6e et dernière journée. Ce succès couplé à la défaite de Gor Mahia face à l'USM Alger 2-1 dans l'autre match de la poule permet à Rayon Sport de doubler les Kenyans d'un point pour se qualifier derrière l'USM Alger. C'est fini par contre pour Williams d'Abidjan tenu en échec par le Djoliba 0-0. Une défaite qui profite à Kara de Brazzaville qualifié malgré sa défaite 0-1 face à Enimba.
Transfert, Pape Aliou Ndiaye a rejoint Galatasaray.
Pape Aliou Ndiaye a finalement quitté Stock City. Âgé de 27 ans, l'ancien pensionnaire de Jambas ne veut pas accompagner son équipe reléguée en 2e division anglaise à l'issue de la saison 2017-2018. Le milieu de terrain international sénégalais a signé pour un prêt d'une saison dans le club stambouliote.
Lyon laisse partir Mariano au Real Madrid.
Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a confirmé que son club va laisser partir l'attaquant Mariano Diaz au Real Madrid contre 33 millions d'euros. Il a ajouté avoir en ligne de mire Moussa Dembélé du Celtic Glasgow et Nicolas Pepe de Lille pour le remplacer. L'avant-centre hispano-dominicain de 25 ans a inscrit 18 buts en Ligue 1 la saison passée. De son côté, le défenseur central Mapu Nyangam Biwa, acquis pour 10 millions d'euros auprès de l'AS Rome en 2015, ne fait plus partie des plans mais reste au club pour l'instant.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La première ministre britannique, Theresa May, est en tournée en Afrique et la chancelière allemande, Angela Merkel, est en visite dans l'espace CEDEAO. L'Afrique, semble-t-il, est au cœur d'une bataille de positionnement et suscite l'intérêt des grandes puissances. Eric Manikera-Kiza, adjoint à Dakar, l'administrateur de programmes de gouvernance et d'avancement économique à Open Society Afrique de l'Ouest, Ibrahima Haïdara.
Je pense que ceci vient d'un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis et son approche singulière des relations multilatérales et le Brexit en UK et la Chine qui montre un intérêt particulier à l'Afrique mais aussi dans sa guerre commerciale avec les États-Unis. Il y a comme une nécessité vitale pour les grandes puissances de se repositionner dans les centres du monde. Et l'Afrique devient dans ce contexte-là un enjeu pour ces puissances.
Le grand maître reste bien entendu la Chine, mais il y a les Américains, les Français, les Russes, l'Inde, la Turquie qui se bousculent aussi. Le gâteau africain va-t-il satisfaire tous ces appétits?
L'Afrique a toujours été une terre d'opportunités pour les marchés, mais aussi des matières premières. Ce qui est nouveau, c'est dans sa recomposition. Et le repositionnement de l'Afrique elle-même pour, répondre à ces demandes qui sont par endroits agressives. Pour stratégiquement tirer profit de ces différentes demandes-là et voir là où elle a un avantage comparatif, là où elle peut gagner plus, la façon dont elle est agressivement sollicitée, ça va être difficile effectivement de satisfaire le gâteau africain, comme vous le dites, disons, satisfaire à toutes ces demandes-là et de façon profitable pour elle-même. Vous avez parfaitement raison d'observer que, outre ces grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Inde, il y a de nouveaux appétits comme la Turquie, le Maroc qui est dans l'Afrique mais qui est assez agressif dans les relations intra-africaines.
Et tous ces investissements qui arrivent, est-ce que ça va réellement stopper le départ des jeunes Africains vers l'Occident? Il y a le drame méditerranéen qui ne s'arrête pas.
C'est une question stratégique d'importance qui doit être adressée avec beaucoup plus d'attention et de réflexion en matière de politique de développement global. Généralement, les investissements qui arrivent ne vont pas nécessairement dans les priorités de développement des économies africaines, mais plutôt dans la satisfaction des besoins des économies développées qui y investissent. Il y a une incohérence, un paradoxe dans l'accroissement des investissements ou l'accroissement de la production intérieure brute et les flux migratoires qui sont alimentés par la pauvreté, le désœuvrement et le chômage qui existent en masse dans nos pays africains. Donc c'est comme si, contrairement à la théorie économique, ici l'investissement ne crée pas du tout d'emploi.
C'était l'économiste sénégalais Ibrahima Haïdara.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur le drame des migrants. Pourquoi beaucoup d'Africains continuent-ils de se tourner vers la migration clandestine et de mettre leur vie en péril en effectuant la dangereuse traversée du désert et de la mer Méditerranée pour tenter de gagner l'Europe? Pourquoi certains originaires de ces pays, pourtant en paix comme le Sénégal, empruntent-ils également ces routes migratoires? Et que font les pays africains pour retenir leurs citoyens? C'est un Washington Forum spécial ce jeudi à 19h30 en collaboration avec notre télépartenaire Box Télévision à Dakar.
L'Allemagne a remis à la Namibie 19 crânes pris par les forces coloniales allemandes il y a plus d'un siècle. Ce sont des ossements de membres des tribus Herero et Nama massacré par les colons. Ces restes étaient en possession d'universités et de musées. La cérémonie a eu lieu à Berlin. La secrétaire d'État aux affaires étrangères, Michelle Muntefering, a demandé pardon pour ce passé colonial. Des excuses jugées insuffisantes par les représentants des deux ethnies. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Athanase Karayenda, ex-fonctionnaire de l'UNESCO actuellement à Kigali, pour des recherches sur les génocides en Afrique.
faut peut-être quand même saluer le geste de l'Allemagne, même s'il est tardif, même s'il est tronqué, parce que l'événement mériterait la présence de la chancelière d'Allemagne. C'est une histoire malheureusement classique. Les puissances coloniales, l'Allemagne, comme la France, comme la Belgique, comme la Grande-Bretagne, sont arrivés vers la fin du 19e siècle en Afrique. Beaucoup de colonialistes de cette époque étaient imbus de la théorie de l'évolution des races.
De la supériorité de la race blanche, pour parler plus clair.
Absolument. Et tout ça, c'était une déviation d'ailleurs de la théorie de l'évolution des espèces. Quand ils sont arrivés dans nos pays, beaucoup de ces grandes puissances ont voulu vérifier effectivement que la race blanche était supérieure. Évidemment, il ne fallait pas que les Africains manifestent quelque résistance que ce soit à l'égard de l'oppression coloniale de cette époque. Et c'est ce qui est arrivé avec les Herero et les Nama qui se sont révoltés contre la puissance allemande et ils ont payé le prix, c'est-à-dire le prix de l'extermination en 1904.
Et les camps de concentration ont existé en Namibie avant les camps nazis où les Juifs ont été exterminés.
Non seulement les camps d'extermination, mais aussi les tests médicaux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des crânes de Herero et de Nama en Allemagne, parce que justement à l'époque, ils ont transporté ces cadavres, ces crânes, pour les mesurer, pour en faire des mensurations. Mais il faut savoir aussi que les mensurations des crânes ont été faites aussi en Sicile, pour prouver que les Siciliens sont une race moins élevée que la race blanche du Nord. On a retrouvé aussi des travaux de mensuration des crânes au Japon. Donc c'est pas une exclusivité africaine, c'était une vision de domination par les puissances coloniales qui passait par la négation de l'égalité des races.
Mais pourquoi l'Allemagne n'a jamais voulu présenter ses excuses et encore moins même donner des réparations aux populations Herero et Nama de Namibie?
Malheureusement, c'est une tradition. La commission de génocide s'accompagne toujours avec le négationnisme. Ce n'est pas que l'Allemagne qui pratique son négationnisme à l'égard du génocide des Herero et des Nama. Là-dessus, la Turquie ne veut pas reconnaître le génocide des Arméniens. Les États-Unis n'ont jamais reconnu le génocide des Amérindiens, exterminé par les Cow-Boys comme on le voit dans les films. Le gouvernement du Myanmar actuel ne veut pas reconnaître le génocide des musulmans Rohingyas. Donc c'est une classique, malheureusement. Le génocide s'accompagne toujours avec du négationnisme. Et le négationnisme se traduit d'abord par ce refus de reconnaître les faits, mais aussi, surtout, par le refus de rendre justice aux victimes. C'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit partout, et c'est une attitude très classique.
L'expert Athanase Karayenda, qui effectue actuellement un travail de recherche sur les génocides en Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Accra le week-end dernier pour le festival annuel Chalewote Street, un mélange éclectique de graffiti, de musique, de mode et de spectacles contemporains destinés, et je cite, à réinventer l'Afrique. Salwa Jafari.
Ébullition. Accra, comme vous ne l'avez jamais vu. Des milliers de festivaliers ont répondu présents. Ils ont dansé, joué et bu. Bref, c'était la fête et les organisateurs ne s'en plaignent pas.
Cette année, le thème de Chalewote porte sur l'appartenance à un groupe, pas l'appartenance tout court. C'était vraiment amusant de passer de bons moments.
Plus de 100 artistes ont participé au festival. L'identité africaine est reine, bien sûr. On célèbre le renouveau. On est nostalgique. Spirituel. Un peu narcissique. Et tout le monde s'amuse dans un bain de foule.
Chalewote en 2017, c'était bien. En 2018, ça a été formidable. C'était fou. C'était mieux que l'an dernier pour les organisateurs. C'est une excellente plateforme pour les gens de montrer leur talent créatif.
L'événement qui a duré 7 jours comprenait également des ateliers et des collaborations qui ont abouti au festival de rue ouvert au public. Chalewote, qui signifie « Allez, on y va » dans la langue locale, veut rallier les Africains et le reste du monde, briser les frontières, tout en élevant Accra à la place qu'elle mérite dans le paysage artistique et culturel du continent.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Floride, dans le sud des États-Unis, sera le théâtre de l'une des élections de gouverneur les plus disputées en novembre. Mardi, les démocrates ont créé la surprise en choisissant un candidat de l'aile gauche du parti, Andrew Gillum. Et s'il est élu, il sera le premier noir à occuper le poste de gouverneur en Floride. Mais il lui faudra d'abord battre le républicain Ron DeSantis, un fervent partisan du président américain Donald Trump. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint Leonardo Villalon de l'Université de Floride.
Oui, effectivement, je crois que la Floride sera au mois de novembre un des États avec une des élections les plus contestées et les plus intéressantes dans un sens pour le futur de l'Amérique. Donc voilà, Andrew Gillum, effectivement, c'était un peu une surprise. Tout le monde donnait les avantages à Gwen Graham, qui est une ancienne représentante, puis d'un gouverneur, d'un sénateur très connu et très populaire dans son temps. Et Andrew Gillum, quand même, c'était une surprise assez importante.
Andrew Gillum est le premier noir à être un candidat dans grand parti. Et quelles sont ses chances en novembre?
Écoutez, en fait, c'est très difficile à savoir. Évidemment, comme tout le monde vous le savez bien, le fait d'être noir dans un état du Sud peut être un handicap dans un sens. En même temps, ça mobilise beaucoup. En ce moment, nous voyons que les minorités, les femmes, les démocrates en général, sont très mobilisées en ce moment pour les élections. Et donc, je crois qu'il ne faut pas exclure la possibilité qu'Andrew Gillum pourrait vraiment mobiliser une base très importante qui peut-être ne s'implique pas régulièrement en élection, mais qui serait très mobilisée par sa candidature.
Mais il va plus mobiliser dans la gauche. Est-ce que cela ne peut pas être un handicap pour le Parti démocrate pour essayer d'avoir les voix de ceux qui sont un peu au centre?
C'est très intéressant, c'est possible en fait que ça soit un handicap, mais la situation en fait c'est la même chose dans l'autre sens chez les républicains, puisque les républicains aussi ont nominé Ron DeSantis qui était il y a quelques mois pas très bien connu, c'était tout le monde le favori, était un centriste républicain, bon, soi-disant centriste républicain, Adam Putnam, et donc DeSantis aussi, en fait, a eu la nomination du côté avec le soutien du président Trump. Et donc, ce que nous voyons en Floride, c'est qu'en fait, les deux partis ont choisi des candidats dans les primaires qui sont plutôt vers l'extrême, de droite d'un côté et de gauche de l'autre, de leur propre parti. Et je crois que ça reflète une polarisation au niveau national.
Oui, justement, vous venez de le dire, dans les deux parties, on a choisi les extrêmes. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour la Floride? Vous disiez que c'est un peu un reflet de ce qui se passe à l'échelle nationale, mais est-ce qu'on a l'habitude de voir une situation pareille en Floride?
Non, ce n'est pas une situation normale en Floride, c'est-à-dire n'importe où aux États-Unis, cette polarisation. La Floride, comme vous le savez, sans doute, c'est un État très divisé, c'est-à-dire c'est un swing state, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est un État qui bascule, c'est à peu près 50-50% démocrate républicain, il bascule d'un côté à l'autre assez facilement. Donc on s'attend que ça soit une bataille assez féroce.
C'était l'universitaire américain Leonardo Villalon.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.